Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter Rimbaud Lacueil, un avocat au parcours à la fois classique et étonnant, qui exerce aujourd'hui le droit du sport. Il a bâti sa carrière à travers une série d'expériences diverses au sein de cabinets renommés. Sa transition inattendue vers le droit du sport reflète son engagement envers cette discipline et sa capacité à saisir les opportunités qui se présentent. Au cours de ce podcast, il va nous parler de son activité, de son développement et de sa vision du domaine du sport sous l'angle juridique. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Rimbaud Lacueil.
Eh bien écoutez, bonjour Maître Rimbaud Lacueil, je suis ravi de vous recevoir ici dans nos bureaux au 52 rue Chaussée-d'Antin à Paris. On a échangé quelques temps avant les vacances, avant qu'on puisse chacun partir en congé. Et je dois avouer que je vous ai appelé pour vous vendre quelque chose à l'époque. Je me disais que c'était intéressant parce qu'on avait peu de clients qui étaient en droit du sport. J'ai vu que vous étiez en droit du sport et je vous ai contacté. Et au fur et à mesure, au vu de nos échanges, je me suis dit « mais en fait, non, j'ai un podcast à lui proposer parce que ça va être beaucoup plus sympa. » Et j'espère que je ne me suis pas trompé, mais au vu de la conversation qu'on a eue avant, je suis sûr que non. Bonjour Rimbaud.
Bonjour Valentin.
Alors, ma première question est toujours la même. Qui étais-tu avant de devenir avocat ?
J'étais comme la plupart des avocats, un étudiant en droit. J'ai fait mes études à Paris 2. J'étais aussi un pratiquant assidu de sport, ce qui explique notamment pourquoi voilà, aujourd'hui je... J'interviens dans ce domaine. J'ai eu un parcours assez classique hein, à la faculté de droit d'Assas, 5 années à la suite. J'ai fait pas mal de stages avant d'intégrer l'école du barreau, principalement en droit de la concurrence. J'étais pas mal en entreprise aussi. Donc j'ai vu du pays avant de rentrer à l'école du barreau. J'ai eu ensuite un parcours assez généraliste, dans le sens que je n'ai pas tout de suite été spécialisé sur cette industrie du sport. Dans des cabinets de place américains, j'ai intégré McDermott à l'époque de son lancement à Paris. C'était encore une petite structure qui se développait au fur et à mesure, où je faisais là-bas du droit de la concurrence principalement, un peu de distri.
Ils étaient en dessous de 10 alors qu'aujourd'hui ils sont plus d'une centaine.
Voilà, c'est ça, et on était sur quelques bureaux, sur un seul étage. Enfin, bon, c'était une période vachement intéressante avec Jacques Buard, l'avocat qui portait ce projet, qui était voilà, quelqu'un de très inspirant et de très sympathique et d'hyper dynamique. Donc ça a été des premières années de collaboration très enthousiasmantes dans ce cadre-là de McDermott. J'ai ensuite rejoint l'équipe de Mélanie Tiltayara chez Descartes. Elle venait aussi d'arriver chez Descartes. Dans ce cabinet-là, j'ai découvert le secteur de la pharma avec des beaux dossiers en pratique anticoncurrentielle et en contrôle des concentrations. Au bout d'un certain temps, la question s'est posée de rejoindre une boutique très orientée contentieux et secteur régulé qui est le cabinet Magenta. Voilà, où je suis beaucoup intervenu dans le secteur des télécoms que j'avais déjà fréquenté chez McDermott et avec une activité très localisée au palais. Voilà, avec c'était aussi passionnant avec des belles audiences. Et puis j'ai été chassé par le cabinet Meyerbrand pour une position plus senior. Sur une activité très transversale en droit de la concurrence avec des beaux dossiers de contrôle des concentrations, gros dossiers de pratiques anticoncurrentielles et puis surtout un rôle un peu plus de management. Et puis j'ai eu cette proposition en début d'année de m'associer donc au sein du cabinet NFALO qui est un des quelques cabinets historiques sur l'industrie du sport à Paris, voilà, qui est présent depuis 1992 et les Jeux Olympiques d'Albertville. Voilà.
Plus de 30 ans.
Plus de 30 ans, ouais. Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours ? Donc, tu deviens collaborateur chez McDermott, tu vas ensuite chez Descartes, tu vas ensuite chez Magenta, puis chez Meyerbrand avant de t'associer dans le cabinet dans lequel tu es aujourd'hui. Ça se fait sur combien de temps, ces quatre cabinets-là ?
Un peu plus de 10 ans.
Un peu plus de 10 ans.
Un peu plus de 10 ans. Globalement, c'est des cycles, comme souvent d'ailleurs, c'est des cycles de 3 ans plus ou moins. Quoi. Voilà.
Et qu'est-ce que tu découvres dans ces cabinets ? Comment est-ce que tu montes en compétences dans ces cabinets ?
Ce qu'on découvre quand on arrive, alors avant d'intégrer ce McDermott en tant que collaborateur, j'avais aussi fait des stages dans des gros cabinets, hein, c'était chez Gitt, chez Linklater, chez Freshfields. Et en fait, quand on rentre dans ces cabinets, on rentre dans on intègre des équipes globales. Voilà. Et c'était particulièrement prégnant chez McDermott, où le cabinet de Paris était naissant, donc il y avait encore une présence très importante des Américains. Donc on s'inscrit pas seulement dans une pure pratique parisienne française comme j'ai pu connaître après, hein, d'ailleurs, ou une pratique d'avocat du palais, mais dans une pratique où on travaille pour des clients globaux avec des équipes globales. C'était particulièrement prégnant chez McDermott avec cet avocat dont je vous ai parlé, Jacques Buard, hein, qui avait vraiment un profil très très international et notamment tourné vers l'Asie. Donc ça a été aussi l'opportunité, cette expérience-là, d'être confronté à différentes cultures de travail. Les Japonais beaucoup, les Scandinaves, les Anglais, les Allemands. Et donc au-delà de l'appréhension de cette matière qu'est le droit, il y a eu aussi un plongeon dans plein de cultures et dans différentes manières de travailler et du coup une obligation de s'adapter à chaque fois. Ouais. Ça, c'était
c'est ça
super.
Qu'on m'a déjà raconté des trucs de dingue sur Jacques Buard où quand il y avait où il estimait qu'il y avait un creux en termes de dossier, il prenait un vol pour partir au Japon, il passait 2-3 semaines là-bas et il revenait dans sa valise avec 15 ou 20 dossiers de place qui étaient colossales. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là, mais ça m'a fasciné. Moi, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais je trouvais que c'était assez incroyable.
Oui, oui, il y a beaucoup de d'histoires sur Jacques. C'est vrai qu'il avait cette capacité à aller sourcer des dossiers au Japon dans plein de matières, en fait. Et effectivement, du coup, il y avait une distribution quand il rentrait à Paris. Et c'est drôle parce que j'en parlais avec des gens de son ancien cabinet à l'époque et à Bruxelles, et qui m'a raconté exactement la même chose, quoi. Donc, ce n'est pas qu'un mythe, c'est vrai. Et oui, du coup, ça a été très enthousiasmant, ouais, ces premières années McDermott. Ouais.
Alors, du coup, tu fais 10 ans avant de devenir associé dans la structure dans laquelle tu es aujourd'hui. Si je comprends bien, ce que tu vas toucher, c'est du droit de la concurrence, de l'univers pharma, un peu de régulatory chez Magenta, ou en tout cas sur un domaine très spécialisé. Et quand tu retournes chez Meilleur Brown, du droit de la concurrence, mais de façon générale et globale. Comment est-ce que tu passes de matière en matière en sautant comme ça? Est-ce que tu n'avais pas peur d'un manque de spécialisation ou d'un manque de spécialité? Nous, on a beaucoup de collaborateurs qui ont ce retour-là en disant « Mais attends, je ne peux pas m'ouvrir sur une matière, il faut que je me focus sur une matière. » C'était quoi, toi, ton approche à la base? Et avec le recul, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui?
Ah non, mais c'est tout à fait juste. Il y a un énorme coup d'entrée quand on intègre des équipes très spécialisées. C'était d'abord vrai chez Descartes, avec une équipe et un cabinet très spécialisé en life science. Et là, il y a un univers qui avec lequel il faut se familiariser, en fait, hein. Une économie qu'il faut comprendre, des règles qu'il faut appréhender, et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Il faut bien essuyer les plâtres au début. Ça a été de nouveau le cas ensuite chez Magenta pour les télécoms, qui est un secteur régulé, avec l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation, des décisions qui ne sont pas les décisions de l'autorité de la concurrence, même si elles s'en rapprochent, hein, à certains égards. Là aussi, il y a eu un énorme coup d'entrée. Et enfin, chez Meilleur Brown, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour le secteur des messageries, qui est aussi très régulé. Alors, pas les messageries en elles-mêmes, mais le secteur de la poste. Mais en même temps, c'est ce qui rend ce métier séduisant. C'est-à-dire que je pense que l'essence du métier d'avocat, c'est le coup d'entrée.
D'accord. Et donc, à chaque fois, donc tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, tu l'as fait trois fois. Je comprends que, du coup, t'aimes l'effort. Ouais. Et que, du coup, sauter d'une matière à une autre, ça te fait pas peur. Ou en tout cas, d'un marché à un autre, ça te fait pas peur. Mmh. Et c'est d'ailleurs une nouvelle preuve, c'est que tu es devenu associé d'un cabinet d'avocat en droit du sport. Ouais. Alors que même si tu aimes le sport et que tu en fais depuis toujours, le droit du sport, ou en tout cas ce secteur d'activité, tu l'avais jamais approché de façon aussi professionnalisée que ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, je trouve ça assez incroyable. Et du coup, j'ai une autre question par rapport à ça. Les cabinets que tu as fait en stage, Gide, Fresh, Linklater, sont caractérisés de gros cabinets. Ce que tu as fait en collaboration, McDermott, Descartes, un peu moins Magenta, mais quand même, et Meilleur Brown sont des gros cabinets. Comment est-ce que tu vois le gap de sauter finalement d'espèces de vaisseaux amiraux internationaux à un cabinet d'avocats français de plus petite taille que celui que tu as rejoint, en plus en tant qu'associé? Ça, c'était comment?
C'est colossal. Alors là, pour le coup, il y a un gap colossal, rien qu'en termes d'effectifs. Je passe d'un cabinet où il y avait une centaine d'avocats, je pense, à un cabinet où on est une dizaine d'avocats. C'est vrai qu'il y a une constante depuis le début de ma carrière entre les différents cabinets que tu viens de citer, avec l'exception de Magenta. Mais il y a aussi une constante, et là on peut mettre Magenta et NFALO dedans, c'est que c'est le même métier. Et c'est le même niveau d'exigence. Et la spécificité, je dirais, de Magenta et d'NFALO, c'est que les dossiers sont tout aussi stratégiques dans ces deux cabinets, parce que ce sont deux cabinets de niche hyper spécialisés et qui traitent des dossiers les plus pointus dans leur domaine respectif. Après, est-ce que je préfère un type de structure ou un autre? C'est vrai que ces gros cabinets, à plein d'égards, c'est super confortable. Ça permet aussi de faire des rencontres souvent extrêmement intéressantes avec des gens très riches. Chez McDermott, par exemple, il y avait une équipe afrique historique qui avait un peu créé la pratique africaine à Paris, en fait, hein. Donc, il y a vraiment des gens passionnants, en fait, dans ces cabinets. Et souvent, on n'a pas l'occasion de tous les rencontrer, mais ça réserve souvent des très très belles surprises. Donc là, aujourd'hui, mon activité, elle est avec un effectif plus restreint, mais elle est aussi plus centrée sur les clients que sur le cabinet lui-même, puisque de par en fait mon nouveau rôle d'associé. Voilà, donc je suis extrêmement heureux d'avoir eu l'occasion d'expérimenter les deux, en fait, grosse structure et aujourd'hui plus petite structure.
Et tu n'avais pas une peur lorsque on t'a proposé cette association, tu nous expliqueras d'ailleurs comment ça s'est passé, etc. Mais de partir de 10 ans de gros cabinet en te disant « je vais devenir associé dans un cabinet très pointu, très spécialisé sur son secteur avec des dossiers stratégiques », mais dans une plus petite structure, est-ce qu'on va toujours m'identifier? Est-ce que les clients vont venir? Les clients vont me suivre? Est-ce que j'aurai plus le même tampon? Est-ce que ça, c'est des peurs que tu as pu avoir ou des réflexions que tu as pu avoir au moment de l'association?
C'est un très, très gros sujet et qui rejoint ma préoccupation, alors qui a été ma préoccupation du jour où je suis devenu avocat. Je pense que ce n'est pas très original, je pense à beaucoup de gens. Mais j'ai toujours eu conscience qu'un avocat, il a des clients. Et donc, mon questionnement, et j'ai fait pas mal de cabinets, parce qu'il y a des gens qui restent 10 ans dans le même cabinet, mon questionnement a toujours été, en fait, quelle est la meilleure structure pour que je puisse développer mon activité? La préoccupation de devenir un bon avocat d'abord, donc sans me préoccuper à plein du développement commercial. Mais ensuite, aujourd'hui, entre 8 et 10 ans là, d'ancienneté, vraiment l'objectif de développer cette clientèle. Quand j'ai quitté Magenta, j'étais assez convaincu que Meyerborn me donnerait les moyens de développer ma clientèle. Ce qui s'est passé sur un certain type de clientèle, notamment les fonds d'investissement. Et aujourd'hui, il y a ce nouveau secteur d'activité avec une clientèle qui va être en continuité par rapport à la clientèle que j'ai développée jusqu'à présent. Parce que j'ai continué par exemple à faire du contrôle des concentrations, pas forcément dans le secteur du sport, peut-être dans le secteur du sport, mais aussi pour des fonds d'investissement, aussi pour des corporate, enfin voilà.
Donc tu as une majeure aujourd'hui qui est sur le droit du sport,
ouais,
mais avec ce que je vais qualifier de mineur, même si tu as pu l'exercer, ouais, pendant 10 ans, sur le droit de la concurrence de façon large, mais dans un autre secteur d'activité que celui du sport.
Exactement, sachant que le droit de la concurrence est une composante du droit du sport, et de plus en plus, en fait. De plus en plus, là, il y a l'appel d'offres pour la Ligue 1 qui vient d'être lancé. Qui est un appel d'offres simplifié d'ailleurs. Il y a des énormes sujets concurrence sur les appels d'offres Ligue 1. Il y a de plus en plus de sujets concurrence en sport. Il y a eu des sujets aide d'État. Il n'y a pas vraiment de sujets abus de position dominante pour le moment, parce qu'on peut se poser la question, notamment sur l'attribution justement des droits télé, mais il y a aussi l'attribution des droits sur les paris, qui est un gros enjeu. C'est-à-dire les données qui permettent de faire des paris live, les données de suivi des matchs en direct, c'est des enjeux financiers colossaux, en fait. Donc là aussi, on peut se poser la question de position dominante, puisque c'est une ligue qui va attribuer ses droits, le cas échéant en exclusivité à un opérateur. Donc on se retrouve dans des situations de marché qui sont sensibles du point de vue du droit de la concurrence. En contrôle des concentrations, dorénavant, les acquisitions de clubs, c'est pas dorénavant, c'est que les acquisitions de clubs sont soumises au contrôle des concentrations. Le rachat de Nice récemment par le groupe chimique anglais Ineos a fait l'objet d'une notification à l'autorité de la concurrence. Donc le droit de la concurrence, il est là, il est au cœur de ce secteur, mais c'est vrai que je n'abandonne pas les activités qui sont hors secteur sport. Voilà, c'est-à-dire qu'elles restent là parce qu'elles sont issues de ma pratique pendant 10 ans. Ouais. Donc c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de dominant sport dans ma pratique.
Ouais. Et si je ne me trompe pas, tu me corriges aussi, hein, si c'est le cas, parce que je ne suis pas un expert en droit et encore moins en droit de la concurrence. Toutes les règles qui ont été créées sur ce qui concernait le fair play financier,
ouais,
dans le football, est-ce que ce n'est pas une forme de dérivée du droit de la concurrence, justement pour aller vers une concurrence plus pure ou plus parfaite de la part de tous les clubs et éviter qu'en fait l'argent devienne, alors pas roi, parce que c'est quand même déjà, ouais, un peu le cas, mais en tout cas plus roi que le roi au sein du sport?
Tout à fait. Alors, ces règles de fair play financier, elles sont mises en place par les ligues ou fédérations c'est la, en l'espèce, c'est l'UEFA, ouais. Ou c'est les ligues de rugby, ou c'est la NBA aux États-Unis avec leur salary cap, ou voilà. Et là, je te rejoins tout à fait, c'est inspiré du principe de libre concurrence. On veut qu'il y ait la concurrence la plus poussée et la plus pure entre les clubs. Dire que c'est le cas aujourd'hui avec ces règles, disons qu'on n'a pas encore totalement atteint ce but, il y a encore quand même, l'argent reste important, on essaye de l'encadrer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe du fair play financier, c'est qu'à des dépenses doivent correspondre des recettes. C'est pas on a tous les mêmes moyens.
D'accord.
Ça, ce serait idéal pour voilà, et puis du coup, ce serait pas le même champion tous les ans, mais c'est juste à des dépenses doivent correspondre des recettes.
D'accord, très clair.
Et après, des recettes, on va les chercher où on peut.
On définit le champ des
recettes. Et où on veut. Voilà. Donc voilà, mais effectivement, c'est ça aussi, c'est passionnant dans ce secteur du sport, c'est les règles qu'on essaye de mettre en place pour optimiser le fonctionnement. Et c'est vrai que les Américains là-dessus sont en pointe, vachement innovants. Les Anglais aussi, sur la monétisation notamment là, des droits audiovisuels, des droits au pari dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, oui, c'est assez passionnant. Et puis c'est quasiment politique en fait, hein, comme secteur, parce que on voit bien que le sport, les enjeux du sport, il y a la Coupe du Monde de rugby là qui est une espèce de cause nationale et qui est un galop d'essai avant les Jeux Olympiques, qui est le grand événement de l'année en France, hein, quasiment, si on peut l'amener ainsi. Voilà, c'est une matière très transverse. Et qui ne se limite pas juste à un match, quoi, en gros. Hein. C'est vraiment, ça recouvre plein de sujets. Nous, on travaille énormément sur les sujets de droit à l'image, sur les sujets de parasitisme, donc de tout ce qui est publicité, communication. Le droit à l'image, on a vu avec les épisodes des joueurs de l'équipe de France.
Mais qui ne voulaient pas mettre les bouteilles de Coca-Cola sur la table,
les
choses comme ça.
Coca-Cola, les chaînes de fast-food. C'est un sujet extrêmement sensible et d'autant plus intéressant qu'on voit que certains joueurs, on parlait de la bouteille de Coca-Cola, commencent à exister en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils commencent à exprimer leurs opinions et à prendre des partis, alors de leur plein gré ou sous les recommandations de leurs conseils, c'est pas le sujet. Mais disons qu'avant tout était globalisé, tout était décidé au niveau de la structure. Maintenant, il faut prendre en compte les joueurs, et puis surtout on le voit là avec les réseaux sociaux, hein, et l'impact que peut avoir la communication d'un joueur sur les réseaux sociaux, c'est monstrueux.
Si on revient un petit peu sur ton parcours avant de se concentrer sur ton activité actuelle et ton rôle au sein du cabinet dans lequel tu es devenu associé, tu étais chez Meyer Brown et tu as quitté ce cabinet pour devenir associé au sein du cabinet Nefalo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et quelles ont été les discussions que tu as pu avoir, bien sûr sans trahir le secret des rois, mais nous expliquer comment ça s'est passé.
C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Je venais d'être promu conseil chez Meyer Brown, dans une très belle équipe, hein, l'équipe de Nathalie Jalabert, à Paris, avec des superbes dossiers et avec un chemin qui était, entre guillemets, balisé un peu, hein, pour arriver à l'association à plus ou moins court terme.
À 3 ans, généralement.
Oui, plus ou moins, dans une équipe avec le vent en poupe. Plein de dossiers et un cabinet qui fonctionne très bien à Paris et un bureau en développement à Bruxelles, on était vachement impliqués là-dedans, enfin une belle équipe à Londres, etc. Mais voilà, comme tu l'as bien compris, le sport chez moi, ça a toujours été omniprésent. c'était structurel pour moi et en fait c'est une rencontre qui a fait que j'ai pu lancer le process chez NFLO et juste des discussions en fait. juste un constat d'évidence. Un constat d'évidence au moment d'aborder les dossiers qui ont été traités historiquement par le cabinet. Et en fait, ça a coulé de source, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer.
Okay.
Il y a eu quasiment pas de process sur cette embauche déjà, parce que c'est une petite structure. Mais en plus, c'est allé très très vite, en fait.
C'était vraiment un match humain et professionnel.
C'est ça, professionnel. Il faut qu'il se confirme maintenant. Ça fait peu de temps que j'y suis, même si les débuts sont très encourageants. Mais en fait, il y a des choses dans la vie comme ça, où une rencontre, et des événements qui se suivent et qui font que, bah, en fait, c'est le moment. Faut y aller, faut foncer. On fait un métier très dur, le métier d'avocat. 10 ans de barreau, il n'y a pas tant d'avocats que ça
qui arrivent à ce niveau-là. Ouais.
Qui arrivent. Et là, au bout de 10 ans, hyper stimulant, hyper satisfaisant, mais dur, concrètement dur. J'ai la possibilité de faire quelque chose dans un secteur qui me passionne, quoi. Vraiment. Et là, je me suis dit, bah, faut tenter. J'ai aucune garantie de rien. C'est un pari financier. C'est un pari sur la pratique. C'est un pari sur la reconnaissance que j'aurai du secteur ou pas. Mais là, je me suis dit qu'il fallait absolument tenter. Et puis, c'est dans ma mentalité. Tu disais tout à l'heure que changer de secteur à chaque fois, c'est quand même pas évident. Bah oui. Et là, c'est peut-être encore moins évident techniquement ou tout ce qu'on veut, mais c'est beaucoup plus évident en termes de passion, en fait, hein, d'envie de faire, de motivation. Même si pour être avocat dans des grosses structures, faut être motivé au quotidien, sinon ça marche pas. Donc, voilà.
Mais si je me trompe pas, et une fois de plus, tu me dis si j'ai tort, le droit du sport en tant que tel n'est pas à proprement parler une matière juridique. On est beaucoup plus comme sur du life science ou de l'industrie pharma, sur un secteur d'activité sur lequel tu te positionnes et sur lequel tu vas devoir faire appel à différents types de droits pour pouvoir répondre aux enjeux du secteur.
Exactement. C'est exactement ça. Et il n'y a pas de matière de droit du sport. Il y a des composantes, il y a des majeures. On parlait tout à l'heure du droit à la concurrence, du droit des contrats. Il y a aussi évidemment les sujets propriété intellectuelle, droit des marques, parasitisme. Il y a tous les aspects.
Tu vas avoir du droit public aussi. Tu parlais tout à l'heure de marché public simplifié ou de choses comme ça.
Bien sûr. Tout ce qui concerne les fédérations aussi. Il y a une grande composante droit public. C'est ça qui rend la matière attrayante. Hein. C'est très très transversal. Il y a plein de problématiques fiscales. Avec des régimes très particuliers, le régime de l'impatriation notamment, hein, pour les joueurs de football, c'est très 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 pointu. On peut pas, c'est très difficile de se prétendre avocat en droit du sport et donc de maîtriser toutes les composantes. Moi, je vais pas faire de droit fiscal, par exemple. Je vais pas faire du conseil en droit fiscal. Par contre, je vais couvrir tout le spectre contrat
Contrat concurrence distribution, voilà,
exactement, du contrat de sponsoring au contrat de distribution de billets par exemple, au financement de la distribution de billets, à tous les partenariats qui sont mis en place par les clubs, la négociation des conditions d'utilisation d'une enceinte par un club. Ça, c'est vachement intéressant, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des clubs qui sont propriétaires de leur stade.
On a d'ailleurs vu ça récemment avec le Paris Saint-Germain qui voulait racheter le Parc des Princes, si je raconte pas de bêtises, et la mairie de Paris qui s'y est opposée, et un conflit un petit peu avec les propriétaires du club aujourd'hui qui ont dit que s'ils ne voulaient pas vendre, ils construiraient leur terrain à côté. C'est ce genre de choses-là.
Exactement, il y a plein de régimes différents pour l'occupation d'un stade. Et du coup, il y a à chaque fois des problématiques différentes qui se posent. Et il y a eu une tendance, parce que la billetterie, hein, c'est le premier poste de recette, hein, pour un club en général. C'est extrêmement stratégique.
La S Nancy-Lorraine doit être en difficulté.
Peut-être, hein, je ne suis jamais allé. Je ne sais plus comment il s'appelle le stade.
Ils sont en 5e division, voilà, je crois, aujourd'hui, ou 6e division.
Mais...
C'est extrêmement stratégique. Et donc, pour optimiser ce poste de recette, certains clubs, notamment, et encore une fois, ça commence en Angleterre, achètent leur stade, font construire leur stade. On l'a vu en France aussi avec, avec l'Olympique Lyonnais.
Avec le Groupama Stadium, c'est ça là.
Voilà, exactement. C'est pas évident. Le coût est énorme. Et après, il faut l'amortir avec de la billetterie, avec aussi des événements culturels, musicaux, etc. Mais il y a un coût d'entrée qui est monstrueux.
Moi, ce que je vois en regardant, sans être un spécialiste, bien au contraire, de ce secteur d'activité, je vois quelques segments qu'on peut potentiellement définir. Déjà des sous-segments, je pense qu'on peut s'adresser directement à l'individu, au joueur sur ce secteur d'activité, éventuellement et également au club, aux fédérations, également aux sociétés qui voudraient avoir des clubs ou des joueurs comme sponsors sur des contrats de sponsoring. Et ça, j'ai l'impression, il y a peut-être plus que 4 acteurs, tu me le diras, mais qu'on peut l'avoir aussi en segmentant par différents types de sports, que ce soit, on citait tout à l'heure le football, le rugby, évidemment, peut-être que tu nous parleras aussi des Jeux Olympiques, du tennis, du golf. Comment est-ce que toi, tu as décidé d'appréhender ce grand marché que pourrait être celui du sport?
Alors, c'est tout à fait vrai qu'on peut segmenter par acteur et je pense que tu as couvert tout le périmètre en finissant par les annonceurs.
Ok.
Qui sont extrêmement importants pour le financement du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans partenaires commerciaux, sans ces grands sponsors, il n'y a pas d'événement sportif en fait. Et c'est tout l'enjeu aussi de notre pratique à nous, et notamment de toutes les actions parasitisme, c'est de protéger le financement des manifestations de Roland-Garros, de la Coupe du Monde de rugby, plus tard des Jeux Olympiques, pour que en fait, l'économie du sport puisse fonctionner. Donc il y a tout un spectre. Nous, on est quasiment partout, sauf sur les joueurs.
Vous ne faites pas du coup d'individu. C'est une vraie volonté de votre part ou c'est qu'aujourd'hui, l'opportunité ne s'est pas présentée?
Alors, il y a toujours des opportunités quand on est... Parce qu'il n'y a pas tant d'avocats en droit du sport que ça. Maintenant, c'est difficile, en fait, d'être à la fois conseil d'un ou de plusieurs clubs et de joueurs. En général, on est l'un ou l'autre.
Okay.
Et l'autre chose, c'est que... il y a des avocats qui ont été spécialisés très tôt là-dedans, hein, sur le conseil des joueurs, mais jusqu'à présent, on en parlait tout à l'heure, ce sont les agents qui faisaient la plupart du travail. Les avocats intervenaient sur la finalisation du dossier, à la marge en fait. Et là, petit à petit, malgré le récent arrêt de la Cour de cassation, les avocats prennent de plus en plus de place et vont pouvoir appréhender l'intégralité du job de représentation du joueur. Voilà.
Et puis ce que tu m'expliquais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que le fait pour l'avocat de prendre entre guillemets la place, ou plutôt on va dire le rôle qu'avait à l'époque celui d'agent, ça lui permet de ne plus être exclusivement sur de l'honoraire, comme ce que toi tu peux faire, mais d'être sur des pratiques de marché qui équivalent à peu près, on ne va pas rentrer dans le détail, etc., mais 10% du montant du CDD du joueur. Mmh. Donc si on prend quelqu'un comme Mbappé sans compter les annonceurs, etc., on est sur 30 millions au PSG par an, sur des CDD, alors je ne sais pas de combien de temps il dure, mais peut-être de 2 ou 3 ans, et ça veut dire que concrètement, on est sur des fees à 9 millions d'euros pour l'avocat qui pourrait le gérer sur un joueur comme celui-ci.
Ça, faudra demander à l'avocate de Kylian Mbappé. Je pense qu'elle sera ravie de répondre.
Je suis pas sûr.
Non, c'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire qu'il y a une pratique maximum pour les agents qui est en football, parce qu'elle est différente, hein, cette
D'accord.
pratique selon les sports, qui est 10%.
Okay.
Effectivement, sur le salaire du joueur, sur toute la durée du contrat. C'est des contrats à durée déterminée, c'est la pratique aussi de 2, 3, 4, 5, enfin, rarement plus loin, mais bon, pour des joueurs très jeunes, ça peut aller jusqu'à 6 ans, 7 ans. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pour les avocats, qui est, si l'avocat se substitue vraiment à l'agent et intégralement à l'agent, pourquoi finalement est-ce qu'il n'aurait pas le droit à la même rémunération? Alors nous, on n'a pas le droit d'avoir des honoraires qui sont uniquement du variable. Voilà. Donc il faut toujours une part fixe et on peut avoir une part variable. Mais sur la fixation des honoraires, on va prendre le sujet dans l'autre sens, nous on n'est pas capé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette limite de 10%. Je ne dis pas qu'un avocat va prendre plus de 10% du salaire du joueur, ce qui est colossal hein, pour un joueur avec un salaire important, mais on n'a pas cette limite-là.
Très clair.
Voilà, parce qu'on fonctionne, on fait vraiment historiquement pas le même métier que les agents. Je te disais qu'on peut aujourd'hui représenter pleinement les joueurs, sauf qu'on ne peut pas démarcher. C'est-à-dire qu'un avocat n'est pas un intermédiaire. Hein. Voilà, on représente nos clients. Alors, on n'est pas des... ça va faire enrager la Jacques Buard, mais on n'est pas des dealmakers.
Voilà. Ok, très clair. Donc du coup, vous n'intervenez pas sur les joueurs. Donc on retire cet acteur-là. Ouais. Si je ne me suis pas trompé, il nous en reste trois. Il nous reste ce que tu as justement appelé les annonceurs, les fédérations et les clubs. Vous intervenez sur ces trois types d'acteurs ou vous avez des dominantes sur l'un des trois?
Historiquement, le cabinet est côté ce qu'on va appeler fédération. L'histoire du cabinet et de Fabienne Fagenbaum, c'est les Jeux Olympiques d'Albertville.
92.
Voilà. Gros Piron. Edgar Gros Piron, médaille d'or, ski de boss. Et là, on lui demande de s'occuper de tous les sujets juridiques du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et donc, on se positionne, le cabinet se positionne très fort tout de suite sur les fédés, les comités d'organisation. Voilà. Et se crée une place dans le secteur. Et après, en partant de cette expérience-là, qui en fait, ce n'est pas juste les JO, c'est avant, pendant, après, parce qu'il y a les contrats, le contentieux avant, après, pendant, enfin bon. Hein. Et après, en se créant en fait une présence sur le marché, c'est un marché qui était naissant, hein, le marché du droit du sport, on arrive en fait à déborder sur les clubs. Le cabinet était un conseil historique de grands clubs français de football, sur les autres fédérations de tennis, de golf, de rugby, je les donne au hasard, hein,
oui,
voilà, ça peut être toutes les
trahis aucun secret professionnel, voilà,
toutes les fédérations et côté annonceur, oui, mais là aussi avec la limite que du conflit d'intérêts, c'est-à-dire que c'est difficile d'être à la fois l'avocat de l'organisateur d'une compétition et d'un annonceur qui serait par exemple poursuivi pour parasitisme par l'organisateur. Alors évidemment, on ne fera pas les deux sur un même dossier, mais même de manière générale, il y a une petite difficulté quand même. Donc on se ferme aucune porte, mais naturellement, en fait, il y a des dominantes qui sont fédées et comités d'organisation et aussi de temps en temps club. Alors tu parlais des sports tout à l'heure, est-ce qu'on peut segmenter par sport? Bah oui, par nature, puisque les avocats vont avoir tendance à connaître plus d'acteurs dans un sport en particulier. Après, les problématiques juridiques sont pas forcément extrêmement différentes.
Oui, c'est toutes les mêmes
selon les sports. Voilà, donc rien n'empêche de passer d'un sport à l'autre. Maintenant, il y a des avocats qui sont plus sur le rugby, il y a des avocats qui sont plus sur le foot, il y en a qui sont très basket. Nous, en ce moment, on fait du rugby beaucoup, on fait du basket.
Coupe du monde oblige.
Voilà, on fait du basket, pas mal. On fait aussi du foot, évidemment, du golf, on fait même de l'escalade en ce moment. Donc voilà, c'est ça aussi qui est super marrant. Ouais. Et c'est un peu comme dans mes anciennes pratiques, on passe de la santé au télécom. Là, il faut quand même à chaque fois comprendre l'économie du sport, comment elle fonctionne, puisque par contre, ça ne fonctionne pas de la même manière.
C'est super intéressant.
Ouais. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes.
Et je me pose une question qui me vient en t'écoutant parler. Est-ce que le fait de travailler sur cette économie du sport, où vous êtes, je comprends bien, historiquement plutôt basé sur l'organisation et sur les fédérations avec Albertville 92, est-ce que ça vous a ouvert des portes dans des entreprises qui travaillent sur ce secteur d'activité? J'y pense que tout à l'heure, je suis allé acheter une montre pour courir un petit peu une Garmin, pour pas citer le nom. Est-ce que ça vous a ouvert des portes dans ce type d'entreprise, Decathlon, Salomon, Garmin, toutes ces boîtes-là qui travaillent sur ce secteur d'activité propre qu'est le sport ou pas du tout?
C'est les
équipementiers, je crois qu'on les appelle les équipementiers.
Bien sûr, et là, tu parlais de Decathlon, par exemple, Decathlon est un partenaire des Jeux Olympiques, c'est eux qui font toutes les tenues des Jeux Olympiques, donc ils sont pleinement impliqués dans toutes les tenues du staff, parce qu'il y a aussi le coq sportif qui a le contrat pour l'équipe de France notamment.
Et tous les autres, on saura que c'est du parasitisme.
c'est autre chose, parce qu'il y a ceux qui ont des marchés, et puis il y a ceux qui sont des partenaires de communication. Le parasitisme, c'est par exemple un constructeur automobile qui n'est pas partenaire des Jeux Olympiques, donc qui ne finance pas les Jeux Olympiques de Paris, mais qui va communiquer sur les Jeux Olympiques de Paris pendant la période des Jeux Olympiques. C'est ça le parasitisme.
D'accord. En fait. Voilà.
Ça veut pas dire que parce qu'il y aura forcément un constructeur automobile qui sera partenaire, en fait, et donc on veut que l'investissement que réalise ce constructeur automobile soit valorisé, en fait, parce que sinon il n'y a plus aucune incitation. Et par contre, lui, le fabricant automobile qui sponsorise, lui a le droit de communiquer. C'est la récompense, c'est la contrepartie. Et malgré tout, cette communication, elle est encadrée, parce qu'on ne communique pas dans les stades. Enfin bon, tout ça est très, très, très encadré par les règles du parasitisme, mais aussi par les règles qui sont édictées par le CIO pour les Jeux Olympiques, par la FIFA, etc. Donc, il y a tout un corpus de règles à maîtriser. Ouais. C'est assez pointu.
Très clair. Et tu as déjà, par exemple, bossé pour... Alors, je ne sais pas si tu peux me répondre ou pas. Si tu ne peux pas, tu me diras, je ne peux pas te répondre, il n'y a pas de problème. Mais pour le sport automobile, par exemple, pour la Formule 1 ou des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez potentiellement intervenir si vous ne l'avez pas déjà fait?
Alors, je ne peux pas parler sur les 30 dernières années du cabinet, parce que je ne sais pas. C'est tout à fait possible qu'on intervienne auprès de la FIA, par exemple, qui organise les Grands Prix de Formule 1. Je veux dire, pourquoi pas? Et on peut aussi intervenir auprès des sponsors, parce que c'est des contrats qu'on retrouve, ces contrats de sponsoring qu'on retrouve dans les différents sports. Et puis souvent, les sponsors, les marques elles-mêmes, on les retrouve souvent aussi de sport à sport. Donc nous, on conseille peu, mais certaines marques sont des grands sponsors du sport. Et évidemment, le fait, pour vraiment répondre à tes questions, le fait d'être très marqué secteur sportif, c'est un atout pour aller démarcher ces clients-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que le sponsoring aujourd'hui en termes de visibilité, c'est très très stratégique pour certaines marques, pas pour tous.
Très clair. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler, alors pas du montant des honoraires que vous allez chercher, mais plutôt du montant des opérations là. Tu nous parlais du rugby sur lequel vous pouviez intervenir de près ou de loin sans vous dire exactement ce que vous faisiez parce que tu ne peux pas le faire. Pareil sur les Jeux Olympiques. Quand on parle de ces grandes compétitions et justement de l'organisation et de la protection des financements, est-ce qu'on s'approcherait des valorisations d'entreprises pour de la cession en M&A? Est-ce qu'on parle de centaines de milliers, de dizaines de millions, de centaines de millions, de peut-être quelques milliards d'euros sur ce genre de manifestation? Est-ce que tu as une idée ou...
Oui. Là, il parlait des recettes qu'allaient générer les Jeux Olympiques 2024. Je ne veux pas dire d'erreur. On est au-dessus d'un milliard d'euros.
Ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est de très très belles
opérations. Donc on est sur du chiffre d'affaires d'entreprises large cap, en fait. Mm. Ouais, clairement, c'est colossal. Quand on regarde la valorisation des grands clubs, Manchester United, là, qui est actuellement en process de vente, On est sur plusieurs milliards d'euros. C'est monstrueux. Monstrueux quand on regarde la valorisation du PSG aujourd'hui, qui n'est pas en vente, mais qui, là aussi on est au-dessus du milliard d'euros, quand on sait que le fonds souverain du Qatar a acheté le club pour 45 millions d'euros à l'époque. Oui, en fait, c'est des multiples de private equity, en fait.
C'est incroyable.
On est sur du x20, x25, x... Mais il y a eu un investissement. Hein. Il y a eu un investissement colossal derrière. Mais les enjeux financiers peuvent être énormes. Énormes.
Tu nous as parlé beaucoup de droits de la concurrence, de propriété intellectuelle et industrielle que toi, j'ai bien compris, tu ne traitais pas, mais que vous traitez au sein du cabinet, des contrats, de la distri. Tu nous as pas parlé de M&A au sein du cabinet, et là, tu nous parles du deal, enfin de l'opération, pardon, de la valorisation de Manchester United. C'est quelque chose que vous ne faites pas au sein du cabinet, que vous ne voulez pas faire, ou c'est quelque chose que vous faites et on n'en a juste pas parlé?
C'est quelque chose qu'on peut faire.
Ok.
Parce que pour pouvoir valoriser ces clubs, pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'audit de ces clubs, faut comprendre en fait comment ça fonctionne cette économie. Donc on va le faire à l'avenir, c'est sûr.
Okay.
C'est pas quelque chose sur lequel on est historiquement positionné. Ceux qui font ces opérations aujourd'hui, c'est des cabinets de place, c'est les gros cabinets parisiens de fusion-acquisition. On retrouve souvent les mêmes qui font ce type d'opération.
Tu peux les citer ou pas?
Bah oui, c'est on parlait de Nice tout à l'heure. Il me semble que c'est Brodin Pratt qui a fait l'opération. Clifford Chance est historiquement très très bien positionné sur le secteur du sport. Je crois que Paul Hastings aussi l'est. Donc voilà, c'est les grandes boutiques de places de fusion-acquisition. Mais il y a tout à fait la possibilité pour un cabinet, pour nous, de se positionner là-dessus. Alors, on passe seul, par contre. Pas seul, parce que l'audit, on va pas le faire seul. Ouais, et puis on va pas le faire seul. Mais tout à fait. Et c'est aussi l'ADN de ce cabinet, c'est d'intervenir directement avec ses propres équipes, mais aussi de coordonner. Puisqu'on est les experts sur ce secteur, de coordonner une intervention sur ce secteur.
Donc voilà. Je comprends bien qu'aujourd'hui, si on a des avocats qui travaillent en droit fiscal ou sur d'autres matières que tu n'as pas citées jusqu'à présent, et qu'ils ont envie de jouer un petit peu sur le droit du sport avec vous, ils peuvent te contacter pour espérer peut-être être de nouveaux partenaires dans ce cabinet.
Voilà, essayer de déloger nos partenaires actuels. C'est compliqué. Oui, mais on a ce rôle de coordination. On ne fait pas tout, hein. Ça, encore une fois.
Et
on coordonne.
Et toi, donc, tu es, entre guillemets, sans te faire à fond, un nouvel entrant sur ce marché du sport, ou en tout cas tu n'y es pas là depuis 25 ans.
Non, pas du tout.
Est-ce que tu essayes de trouver des sports qui sont aujourd'hui peut-être peu médiatisés, où les sponsors ne sont pas encore très présents, et tu essayes de miser dessus? J'ai quelques idées qui me viennent en tête. Je pense notamment à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une série qui sort d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, si je ne raconte pas de bêtises, qui est Bernard Tapie, quand il avait investi à l'époque de La Vie Claire au sein du cyclisme, et qu'il a lancé un petit peu le sport business sur ce sport. J'ai vu qu'il y avait eu l'arrivée de l'UTMB ce week-end, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui pour la première fois ou la seconde fois a été retransmis en direct à la télévision. Je crois que c'est pas en totalité, mais en tout cas c'est une bonne partie, avec de plus en plus de sponsors. Est-ce que tu estimes, toi, que c'est une bonne stratégie de pouvoir te lancer sur des sports qui sont pour l'instant, je vais pas dire inactifs, mais en tout cas moins médiatiques ou moins business que par exemple le football ou des sports comme ça?
Oui, c'est très intéressant. Alors, ce qu'avait fait Tapie, alors à l'époque, je me souviens plus si c'était quelle équipe il avait prise, si c'était Look, je sais plus comment ça s'appelait l'équipe. Bon, il avait quand même acheté les deux plus gros stars du peloton.
Ouais.
Je crois qu'il y avait Hino et Lemonde, hein,
exactement.
Dans la même équipe. Donc, il avait mis les moyens, et je crois qu'il a fait ça avant l'OM. Hein. Donc c'était sa première très, très grande réussite sportive. Et l'UTMB, c'est vachement intéressant parce que pour le coup, ça c'était pas Bernard Tapie, je crois que c'est un couple qui a
créé... Non, mais c'est pas Bernard Tapie.
Ouais, c'est un lieutenant, mais c'est pas Bernard Tapie, c'est un couple qui a créé cette course et qui aujourd'hui prend une vraie ampleur. Déjà, il y a une dizaine de courses à l'UTMB, il y en a pas une seule. Et puis en plus, aujourd'hui, on a vu d'un c'est retransmis et puis il y a énormément de spectateurs. Je crois que cette année, les coureurs se sont limite pleins du nombre de spectateurs, de la bronca qu'il y avait sur certains cols. Voilà, donc, ça devait être assez intrigant hein, d'être sur place. Donc oui, ça n'arrête pas, ça pullule. Alors le trail, c'est vraiment une des disciplines qui explose hein, en ce moment. Mais il faut être très attentif au sport qui se développe. Le e-sport, c'est devenu énorme. Alors, il y a des sponsors, par contre.
Interviens un peu sur le e-sport, toi ?
Pas encore. Mais c'est un énorme sport qui est quasiment mature. Il y a des compétitions dans des grands stades. Il y a des sponsors qui ont investi énormément d'argent. Nous, le cabinet a une particularité, c'est que on est associé à un professeur qui est vraiment en pointe sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc on est sur ces sujets-là. On scrute. Et on sera très, très attentif à tous les développements sur nos sports classiques, en fait. Et ils vont arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir, des matchs IA de football, c'est sûr. Il y a déjà des choses et ça va se développer et ça va être bourré de sujets juridiques, tout ça. Bourré. Donc on sera là-dessus. On sera là-dessus pour accompagner le développement, peut-être même la réglementation, et puis après pour accompagner l'économie de ces sports, ouais. Ça c'est sûr. Ouais.
Comment tu fais aujourd'hui pour te faire connaître dans ce secteur d'activité ? C'est quoi un petit peu tes sauces secrètes, si je peux appeler ça comme ça, ou tes recettes pour commencer à être identifié et bien identifié ? Le cabinet est déjà, tu me parles ouais. 92, 30 ans, etc. Mais toi, à titre perso, pour exister aussi et développer ton activité au sein du CAB ?
Ah, pour le coup, c'est assez semblable aux autres pratiques des autres gros cabinets, c'est-à-dire qu'on intervient dans des colloques, on écrit, on organise des événements là, pour la rentrée sportive, on rencontre les gens, on va vers les gens, et c'est vrai que c'est d'autant plus facile. Et on est d'autant plus ambitieux et volontaire quand on est passionné, en fait. Quand on est passionné par ce que fait la personne qu'on va voir, et ben ça rend les choses très très faciles, en fait. Ça veut pas dire qu'on va repartir avec un dossier, hein. Mais pour s'intéresser, pour créer du lien, créer de la discussion, c'est assez naturel, en fait, dans ces cas-là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ce cabinet aussi et la raison pour laquelle je ne me suis pas mis à mon compte, c'est qu'on ne rentre pas dans ce secteur-là non plus. Aujourd'hui, j'ai ce cabinet qui me permet, en fait, d'avoir accès déjà à beaucoup de monde et dans ce cadre-là, de développer ma clientèle. Et j'admire les gens qui se lancent tout seul. Hein. Parce que c'est vraiment, vraiment pas évident. Et peu importe le secteur où on est et peu importe la matière qu'on pratique, en fait.
Moi, je suis assez d'accord avec toi aussi. Je trouve que c'est vraiment admirable. Et pour utiliser une expression que j'utilise souvent et qui n'est pas du tout au goût du jour, c'est assez couillu
pouvoir le faire. Ah oui, non, mais c'est clairement. Mais c'est une part du job.
Ouais, carrément.
C'est une part du job. Alors, pas forcément pour tous les avocats. Il y a des structures aujourd'hui qui n'imposent pas de développer une clientèle parce que la structure est une vraie marque et qu'en fait, elle nourrit l'avocat. Mais
moi, c'est exceptionnel. Moi, au vu de la protection qu'il y a aujourd'hui pour l'avocat et la capacité de pouvoir le sortir à tout moment, si un marché se retourne, si on a une difficulté, etc. Tous les avocats qu'on voit passer, que ce soit en formation, en conseil, en coaching ou quoi que ce soit, même quand la structure n'attend pas qu'ils développent, on leur dit qu'en réalité, leur carrière, leur vie n'est pas entre leurs mains, mais entre les mains d'un tiers. On a vu quand même beaucoup d'avocats qui étaient des gens très forts, qui n'ont pas été associés au sein d'une structure pour des problématiques de politique interne ou pour des problématiques de marché qui se sont retournées au moment où ils auraient dû être associés. On a vu des avocats qui étaient nuls à chier, qui sont quand même devenus associés parce qu'au contraire, le marché était extrêmement favorable, on avait un boom et on ne pouvait pas se permettre de perdre un senior ou un counsel, même s'il n'était pas aussi fort que les autres. Et donc, en réalité, on part toujours d'un principe simple, qui d'ailleurs, tu as toujours habité depuis que tu es avocat, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est qu'un avocat, ça doit avoir des clients. Sans clients et sans chiffre d'affaires, l'avocat n'existe pas. Moi, j'en suis en tout cas intimement convaincu. J'espère que je me trompe pour certains qui n'en ont pas, mais en tout cas, j'en suis convaincu à 300%.
Oui, en tout cas, alors, voilà, sous réserve de ce que je te disais sur ces structures qui nourrissent les avocats, et au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment un aspect séduisant de ce job. Hein. On est là pour accompagner les clients, et le préalable à l'accompagnement, c'est d'aller chercher, d'aller lui raconter une histoire pour pouvoir, parce que même moi dans mon secteur, qui est pas le secteur le plus saturé, il y a d'autres avocats, quoi. Donc à chaque fois, faut expliquer quelle est sa plus-value, hein, sur ce dossier, et pourquoi nous, quoi. Donc pour un jeune avocat associé, c'est d'autant plus challengeant. Ouais, ouais.
Ouais. Rimbaud, on arrive bientôt à la fin de l'interview parce que je t'ai déjà pris une heure et t'as autre chose à faire aujourd'hui et je le sais, et d'ailleurs moi aussi. J'ai trois questions assez rapides à te poser et après, promis, je te laisse partir. Les avocats que tu vois aujourd'hui souvent en face de toi sur ces problématiques de droit du sport ou sur ces deals, c'est qui? Si tu devais en citer deux, trois, je sais que tu vas en oublier plein et tu vas t'excuser d'ores et déjà d'avance pour tout ce que tu auras oublié, mais c'est qui majoritairement que tu vois sur les deals?
Alors, j'ai plutôt parlé de structures, ce sont des structures comparables,
okay,
avec des spécialistes, des équipes droit du sport, plus ou moins grosses. J'ai pas besoin de les citer, ils se reconnaîtront. Et après, ça va dépendre de l'événement, ça va dépendre de la problématique. On peut aussi retrouver des gros cabinets de place.
Comme parler tu sais tout à l'heure,
Clifford, ça peut être des Brodins, ça peut être voilà, ça peut être aussi des cabinets internationaux selon les deals qu'on fait. Donc non, là c'est très varié, okay. Et c'est vrai que le fait d'avoir un background dans les gros cabinets aide pour comprendre le fonctionnement.
Ok, voilà. Tu me lâcheras pas dedans. Voilà. D'accord. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais en sport? Tu m'as dit que tu avais toujours aimé le sport, etc. Mais on n'a même pas parlé de ce que tu faisais au quotidien, ouais, ou de ce que tu aimais comme sport.
Alors moi, historiquement, j'ai beaucoup joué au hockey sur gazon,
okay,
voilà, qui est un sport un peu anonyme en France. Mais du coup, ça a permis de jouer à haut niveau au Racing Club de France, qui est le club parisien. Ensuite, j'ai fait pas mal de sports d'endurance, et notamment ces derniers temps du triathlon longue distance. Voilà. Et puis j'ai par éducation un tropisme pour la montagne, donc l'alpinisme, le ski, toutes ces choses-là. Et le triathlon, alors c'est un peu compliqué de faire du triathlon tous les week-ends, donc c'est de la course à pied par-ci, de la natation par-là, du vélo. Et je suis très curieux, là, mon gros truc actuel, c'est la boxe anglaise, que je trouve extraordinaire.
Tu vas au temple?
Ouais, exactement. Voilà. Pour pas citer le nom. Voilà, c'est, pour parler sport, c'est le sport le plus dur que j'ai jamais fait et qui colle bien avec ce métier d'avocat, parce que tu penses que c'est juste une décharge d'énergie. En fait, ton cerveau est sans cesse sollicité. Il y a des moments où tu n'as pas envie. Après ta journée de travail, parce qu'il y a un vrai effort de coordination. Donc voilà, j'encourage tous les confrères à pratiquer le sport, même s'il y en a déjà plein qui le font. On le voit au temple, d'ailleurs.
Je vais parler du directeur juridique aussi. Voilà. J'ai déjà boxé à côté de Victoria Sixic, qui est la directrice juridique de Vinted.
Et son
mari que c'est Guillaume de Frémont.
En tout cas, on vient de faire une bonne pub pour le temple. Je pense qu'ils seront contents.
Exactement, les internes, ils ont envoyé les gens. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Bah, de continuer à surfer sur cette vague, hein, qui est pour un avocat avec 10 ans de barre, d'avoir la sensation de trouver l'activité qui lui plaît, dans laquelle il va s'épanouir, et de s'épanouir là-dedans. Et après, juste, ce qui est génial, c'est que on sait pas ce qui va arriver et que tout est possible, et que ce secteur est juste super dynamique, qu'il y a plein de choses, et que dans l'immédiat, il y a et la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et plein d'autres choses entre-temps. Et donc juste, bah, de
peut me souhaiter de continuer à vivre cette passion, quoi, hein, tout simplement.
Et ben, voilà. Je te le souhaite à 300%, du coup, de t'épanouir aussi en tant qu'associé dans cette nouvelle structure, que ce match, on va conserver une sémantique sportive, puisse continuer à être aussi bon qu'il est aujourd'hui, et surtout que tu puisses te développer et devenir très très rapidement la référence de ce secteur d'activité. Merci Rambo pour le temps que tu m'as accordé, j'ai passé un super moment, et je te souhaite une bonne continuation.
Merci Valentin.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.